Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 16h sur RTL.
Bonjour les curieux de l'été, c'est nous, Thomas et Sidonie.
Hey, comment ça
vous allez bien? Salut les curieux.
On est ensemble jusqu'à 16h.
Ils répondent pas beaucoup.
Non, mais ils sont là, hein, je vous assure.
Bah oui, je sais bien.
Ça bah, pour plaisir, revivre les meilleurs moments de l'émission de l'année, quand même, il y a du monde. Hein. Puis tout le boulot que ça nous a donné.
Mais oui, c'est pas fou. On a un peu fait tous les horaires hein, sur RTL.
c'est vrai.
Écoutez, en tout cas, on est très.
Tous les sujets aussi.
On est très heureux d'être là. De 15h à 16h et on a un super programme encore aujourd'hui.
Quand la tempête fait rage, on a besoin d'eux et ils sortent malgré le danger. On va vous raconter les sauveteurs en mer et leurs missions les plus périlleuses, à savoir qu'ils sont bénévoles et que leur association, la SNSM, est déclarée grande cause nationale 2017.
Tout de suite sur RTL, vous avez reconnu cette voix de légende, Billie Holiday.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
La curiosité est un vilain défaut.
I love you, Porgy.
RTL.
Don't let him take me.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Une femme, une voix, un vibrato, une chaleur. Il y a 100 ans, la chanteuse Billie Holiday naissait à Philadelphie. 44 ans plus tard, elle disparaissait à New York. Le temps de devenir l'une des plus grandes chanteuses de blues et de jazz du monde. Le temps aussi de goûter à tous les excès et à tous les succès. On vous raconte son histoire cabossée avec Philippe Broussard. Vous êtes journaliste et écrivain. Et enquêteur aussi. Nous sommes en 1958. Billie Holiday n'a plus que 8 mois à vivre. Et elle le sent, elle le sait. Ça, on va raconter tout à l'heure pourquoi. Donc, 58, elle commence une tournée importante pour elle. Elle va où?
Elle arrive en Europe, d'abord à Milan, ensuite à Paris. Ce mois de novembre 58, 30 jours, elle a une série de concerts de prévus. Elle va passer 10 jours à Milan d'abord et ensuite une vingtaine à Paris. C'est important pour elle puisqu'à New York, où elle fait l'objet d'une interdiction d'exercer dans certains clubs, elle est un peu bloquée dans sa progression, dans sa carrière. Elle n'a plus beaucoup de sous et elle vient en Europe pendant un mois pour essayer de se refaire d'une certaine manière.
Elle ne peut plus exercer à New York, dans les clubs. Pourquoi? À cause de l'alcool?
Parce qu'elle a fait l'objet de condamnations dans des histoires de stupéfiants. Et comme elle est également alcoolique, la loi est telle à l'époque, dans un contexte américain très serré pour les Noirs, qu'elle ne peut pas exercer dans certains clubs. Seules de grandes salles éventuelles lui sont ouvertes, mais c'est compliqué puisqu'elle est quand même un peu en bout de course, en fin de carrière quelque part. Et les producteurs surtout hésitent à l'engager puisqu'elle n'est pas forcément très fiable. Pour des raisons qu'on va sans doute voir ensemble.
Alors justement, cette tournée, elle commence comment? Elle commence bien à Milan? Elle est en forme, Billie Holiday?
Elle arrive pleine d'enthousiasme. Elle est plutôt contente d'avoir cette tournée. Elle est en formation très réduite puisqu'elle était avec son pianiste de l'époque qui s'appelle Mal Waldron. Et là, à Milan, elle est programmée dans une salle qui n'est pas faite pour elle. C'est-à-dire que c'est une grande salle devant un public très populaire, un public de music hall qui vient surtout applaudir d'autres artistes qui sont présents, des artistes italiens de tout style, mais surtout pas de jazz et surtout pas du jazz très intimiste, très particulier avec cette voix extraordinaire qui est celle de Billie Holiday.
Et donc elle arrive à Paris, elle doit jouer à l'Olympia dans le cadre des mercredis de l'Olympia. On est pour le soir de la première. Dans quel état elle est? Qu'est-ce qui lui arrive?
Nous sommes le 12 novembre 1958 et Billie a une journée très longue, très lourde et très alcoolisée. Dès le matin, elle est réveillée assez tôt, 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Pour elle, c'est assez tôt. D'habitude, elle se lève beaucoup plus tard parce qu'elle a des nuits très longues. Et en fait, dès le matin, pour se mettre en confiance, comme souvent à l'époque, elle avale un grand verre de gin et ensuite, elle a le tournage assez éprouvant d'une émission de télévision. Dans l'après-midi, elle retourne à son hôtel et elle boit à nouveau. Et le soir, quand elle se présente rue de Caumartin à l'Olympia, elle est déjà dans un état assez lamentable pour elle. Les gens qui la connaissent s'aperçoivent qu'elle est ivre-morte. Elle chante un morceau, deux morceaux. Le public, elle essaie de chanter plutôt un morceau, deux morceaux, puisqu'elle est quasiment aphone. Le public s'en aperçoit, des gens commencent à siffler, d'autres à essayer d'applaudir pour la soutenir. Au troisième morceau, elle marque une pause, elle part en coulisses. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a pris quelque chose pour se booster d'une certaine manière? Est-ce qu'elle a pris le temps de se calmer? Son pianiste a assuré l'intérim par deux morceaux et elle est revenue sur scène. Et là, elle a repris un peu le fil. La voix est quelque part revenue Et elle a fini sur une note positive puisque dans la salle, ses partisans ont pris le dessus sur ses détracteurs.
Et cette reconstitution, cette histoire que vous racontez, Philippe Broussard, vous la publiez chez Stock dans un livre qui s'appelle « Vivre 100 jours en un ». C'est l'un des leitmotifs de Billie Holiday, mais on racontera ça aussi pour quelle raison elle voulait vivre 100 jours en un. Ce grand soir à l'Olympia, il se termine comme à chaque fois depuis près de 20 ans avec l'une de ses plus grandes chansons.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze.
Strange fruit. Le fruit étrange, c'est quoi, Philippe Broussard ?
C'est une image pour évoquer les corps des Noirs qui étaient lynchés encore à cette époque dans le sud des États-Unis et qui pendaient aux arbres de cette région des États-Unis. Il faut savoir que Billie a elle-même souffert du racisme en tant qu'artiste. Hein. Donc c'était quelque chose qui était vraiment profondément ancré en elle, cette lutte contre le racisme et la souffrance qu'elle a pu en tirer.
Puis c'est devenu un hymne aussi, évidemment, de la chanson protestataire noire, Strange Fruit, et elle est restée dans l'histoire.
Il faut se remettre dans le contexte. On est en 1939 quand elle le chante pour la première fois au Café Society de New York, qui est un café où noir et blanc se côtoient très facilement et qui est un peu à l'avant-garde de la contestation à l'époque. Et elle ose cette chanson. Elle impose le silence absolu dans la salle, le noir complet. Donc imaginez cette voix dans un contexte de l'époque qui d'un seul coup vient vous parler de fruits étranges dans le sud, vous sortez, vous avez des frissons.
Alors comment cette chanteuse, cette interprète absolument incroyable, Billie Holiday, est née ? On vous raconte ça tout de suite dans La Curiosité.
C'est jusqu'à 16h sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
My man don't love me. He treats me oh so mean.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Billie Holiday, ce fut Piaf, Empire, Amy Winehouse, puissance 10, du talent, du drame à profusion, la prostitution, l'alcool, les coups, le sexe, la dope, la prison et la mort à 44 ans, à l'été 59. Ce sont vos mots, Philippe Broussard, extrait de Vivre 100 jours en un, publié chez Stock. On était il y a quelques minutes à l'Olympia, Billie Holiday a terminé son concert, finalement ça s'est mieux terminé que ça n'avait commencé. On va lui proposer de se produire dans un autre club à Paris, lequel ?
Le Mars Club. Un tout petit club qui est situé près de la rue Marbeuf, à proximité des Champs-Élysées. Et ce qui se passe en fait, c'est que comme la partie italienne de sa tournée a été un demi-échec, comme l'Olympia est également un demi-échec, disons, certaines dates qui étaient prévues dans des salles plus importantes, que ce soit en Italie ou en France, ont été annulées. Or, elle a un billet d'avion prévu pour le 1er décembre, elle n'a plus un rond, ni son pianiste, Mal Waldron, et il faut bien vivre sur Paris. Sur ce, elle s'adresse à la communauté des musiciens blacks américains exilés à Paris, et elle dit, qu'est-ce que je peux faire ? C'est quand même Billie Holiday, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
C'est dingue.
Et là, on lui trouve un petit club qui s'appelle le Mars Club, qui est tenu par des Américains. C'est une sorte de QG des Américains exilés à Paris, fréquenté à la fois par des musiciens, des acteurs. Sidney Poitier vient quand il est de passage à Paris. Duke Ellington y a ses habitudes. 50 personnes, 60 personnes au maximum.
C'est tout petit,
c'est ce studio.
Concert très très privé.
Une annonce est publiée dans le International Herald Tribune, évidemment. Classe. Et Billie se prépare avec son pianiste pour être présent. Et dès le premier soir, le téléphone carillonne de partout. Le tout Paris veut être présent, parce que vous imaginez voir Billie Holiday dans une salle de 50 personnes, vous êtes à côté d'elle. C'est pas l'Olympia, c'est pas le Zénith d'aujourd'hui. Bon. Et là, Brigitte Bardot est annoncée. Duke Ellington en personne, qui est de passage à Paris, va venir. Sagan viendra sur la fin, qui connaît déjà Billie. Et donc, en fait, on s'aperçoit que dans ce contexte de proximité avec avec sa voix si particulière et sa gestuelle si particulière, elle va en partie renaître et ce sera une salle qui lui correspondra beaucoup mieux que la grande salle comme l'Olympia, encore mieux que celle d'Italie, évidemment.
Vous l'avez dit, Françoise Sagan avait sympathisé avec Billie Holiday, je crois, deux ans auparavant. Elle se revoit en 58. Avant de quitter Paris, qu'est-ce que Billie Holiday confie à Françoise Sagan ?
Sagan est assez, disons, choquée, perturbée par la vision qu'elle a de Billie quand Billie se présente au Mars Club. C'est-à-dire que Sagan restait sur le souvenir d'une Billie un peu rayonnante qui surjouait un petit peu quand elle l'avait côtoyée aux États-Unis. Elles étaient beaucoup sorties ensemble, elles avaient beaucoup bu ensemble. Les années ont passé, Billie a vieilli, elle arrive à Paris, elle se retrouve dans ce refuge du Mars Club. Et là, Sagan la croise et dit c'est Billie et c'est pas Billie. C'est-à-dire que la personne est physiquement très marquée, très atteinte, blessée.
Elle parle même des piqûres sur les bras.
Puisqu'elle consomme encore de la drogue. Et puis au-delà de ça, quelque part, Sagan prend conscience de toutes les souffrances que cette femme a endurées tout au long de sa vie, dont on parlera sans doute par la suite. Et voilà, elle reste sur cette impression assez terrible d'une femme sur le déclin. D'autant qu'au moment de la quitter, là on est sur la fin de la séquence Mars Club, Billie s'adresse à Sagan et lui dit... Tu sais, ma chérie, de toute manière, la prochaine fois que tu entendras parler de moi, je serai morte entre deux flics à l'hôpital.
Et elle meurt 8 mois après ?
8 mois après, en juillet 1959. J'ai bien conscience du fait que ce que je suis en train de raconter fait un peu biopic pour Hollywood et que bah, c'est la version de Billie. Il faut savoir quelque chose, et je me suis aperçu de cet élément-là en rencontrant des gens pour les besoins de ce livre. C'est que Billie avait tendance à parfois en rajouter.
À écrire la légende un petit peu.
À écrire un peu sa propre légende, à mentir pas mal. De ce point de vue-là, elle avait, j'allais dire, les défauts de pas mal de gens qui sont tombés dans la drogue, notamment, y compris vis-à-vis de sa propre santé ou de ses propres souffrances. Elle avait tendance à mentir un peu.
Mais Philippe Boussard, c'est son vrai nom ? Billie Holiday ? Non.
Non, non, non.
Elle s'appelle comment, alors ?
Non, elle s'appelle Eleanora...
Fagan, je le lis dans votre livre.
Non, je cherchais parce qu'il y a, on peut dire Koff aussi, elle avait les deux noms. Fagan,
oui,
parce qu'elle avait un arrière-grand-père d'origine irlandaise. Excusez-moi pour ce petit trou de mémoire. Mais Holiday était le nom de son père, Clarence.
D'accord.
Liblab Holiday.
Et voilà. Billie, c'est pourquoi ?
Billie, parce qu'elle avait pour idole une actrice blanche de l'époque qui s'appelait Billie Dove.
Alors Billie Holiday, c'est comme un conte de fées, mais c'est aussi sa vie. Elle est repérée et elle enregistre très vite avec le clarinettiste Benny Goodman. Et ça donne ça. Dans un petit club de jazz là à New York, qu'est-ce qu'on est bien, c'est vrai, il y a une bonne ambiance grâce à la mise en onde d'André.
Eleonora
Fagan, c'est ça,
elle a bien fait de changer Billie Holiday, c'est beaucoup mieux Billie Holiday. Là, on vient d'entendre I Cried For You, alors c'est une reprise d'un standard américain, elle faisait beaucoup de reprises Billie Holiday.
Oui, mais comme tout le monde dans le jazz, c'est assez classique de reprendre des standards, comme on dit. Au total, il faut savoir que Billie a dû chanter plus de 330 morceaux, et dont de nombreuses reprises, comme vous dites. Oui.
L'une des grandes rencontres de Billie Holiday, c'est aussi le saxophoniste Lester Young. Pourquoi est-ce qu'il est très important dans sa vie ?
D'abord parce que ça a été un ami. Mais plus qu'un ami, un frère. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Billie avait avec les hommes des relations qui étaient souvent amoureuses ou purement sexuelles. Elle a eu de nombreux, très nombreux amants. Et Lester, le Prez, comme elle l'appelait, c'était différent. C'était une relation amicale d'une intensité assez incroyable. Ils se sont connus en tournée au sein de l'orchestre de Count Basie. Parce qu'il y avait des orchestres comme ça, des big bands, qui faisaient des tournées au plus profond des États-Unis. Et Billie, c'était un peu à la fois la nana au milieu du groupe de mecs, elle était au fond du car, elle organisait des paris, voilà. Et puis ils étaient tous plus ou moins secrètement amoureux d'elle. Et Lester, lui, qui avait un humour très particulier, qui faisait souvent des jeux de mots, qui avait des surnoms pour tout le monde, était un peu le bouffon de la troupe et ils étaient faits pour s'entendre.
Ils vont enregistrer plus de 50 morceaux ensemble, dont, allez, un petit « What a little moonlight can do ».
What a little moonlight can do. Ooh, what a little moonlight can do to you.
C'est l'histoire d'une femme qui voulait vivre 100 jours en un, mais Billie Holiday va payer le prix de ses excès.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. RTL, première radio de France.
When the moon's kinda dreamy.
RTL.
Starry-eyed.
Info.
Strange fruit hanging from the poplar tree.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vivre 100 jours en un, ce sont les mots, le leitmotiv de la chanteuse Billie Holiday. À quelle occasion Philippe Broussard a-t-elle prononcé ces mots ?
En 1957, aux États-Unis, elle est invitée à une émission de radio et l'animateur lui pose une question. Il lui dit, écoutez, comment ça se fait que les monstres du jazz, hommes et femmes, meurent si jeunes ? Et elle a cette réponse extraordinaire, ben voilà, c'est parce qu'on essaie de vivre 100 jours en un.
C'est le titre que vous donnez à votre livre publié chez Stock. Alors, dans les années 40, Billie Holiday est carrément interdite de jouer dans les salles qui vendent de l'alcool. Qui c'est qui décrète cette interdiction ?
C'est une décision de justice due au fait qu'elle a été condamnée dans des affaires de stupéfiants parce que de la drogue a été saisie dans ses différentes chambres d'hôtel. Elle fera un peu de prison en 1947. Dans une prison pour femmes de Virginie-Occidentale. Ça la prive de son gagne-pain, quelque part, parce que c'est une femme qui est faite pour se produire dans les clubs de jour en jour, pour des durées assez longues, et vivre dans ce monde de la nuit. Or, ce monde à New York, sa ville, lui est interdit.
Mais Philippe Broussard, elle connaît la musique, les notes, le solfège, ou c'est instinctif ?
C'est instinctif. C'est-à-dire qu'elle a appris, d'elle-même, elle n'a jamais pris de cours de musique. Elle avait pour habitude de dire que la plupart des jazzmen et women de l'époque étaient un peu comme ça. C'est un peu aussi de la légende, mais ça n'empêche que, la concernant, elle a appris comme ça à poser sa voix, ou à ne pas la poser d'ailleurs, parce qu'elle avait la réputation de jouer parfois sur ce décalage entre la voix et la musique. Et c'est ce qui fait, à mon avis, une partie de son talent et de sa particularité.
Mmh. Alors, Billie Holiday, à 21 ans, on brise la chronologie, on va dans tous les sens. Elle est au sommet de sa gloire. C'est la première artiste noire à monter sur la scène du Metropolitan Opera. Première artiste noire aussi, une des premières en tout cas à signer un contrat avec un label. Et elle découvre l'opium et l'héroïne à 21 ans. Qui c'est qui va l'y plonger ?
C'est le monde de la nuit à New York à l'époque. Hein. Vous savez, là, les drogues sont en forte circulation à l'époque. Dans le milieu de la musique, ça se fait beaucoup. Elle n'est pas la seule. Il y a un musicien très connu qui s'appelait Mez Mesereau qui a goûté à tout ce qui pouvait exister sur cette terre en matière de stupéfiants. Et Billie le connaissait. Donc la drogue circule.
Donc là, on est avant la Seconde Guerre mondiale. On est
avant
au
la
milieu
Seconde
des
Guerre
années 30,
mondiale. Mais en plus, il faut savoir que Billie, de toute manière, là, on fait un peu plus de la psychologie, avait un rapport très particulier à son propre corps. Elle était dans une forme d'autodestruction. Donc la consommation de drogue allait dans ce sens-là.
Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own.
God bless the child, c'est Billie Holiday. Moi, je chante cette chanson. Pour moi, c'est une comptine pour ma petite fille. Elle est née comment, cette chanson ? C'est une histoire vraie. Et elle est pas très joyeuse, cette histoire, d'ailleurs.
Elle n'est pas très joyeuse. C'est un accrochage entre Billie et sa maman à propos d'histoires d'argent. Alors, il y a différentes versions qui circulent, mais en tout cas, c'était un accrochage plus que sérieux parce qu'elles étaient capables, l'une et l'autre, de s'insulter copieusement. Donc, je ne sais pas si il faut continuer à le chanter.
La mélodie est très belle. Et elle ne comprend pas encore l'anglais.
Donc ça va. Mais maintenant que vous le comprenez et que vous savez exactement ce que ça raconte, ça va plus être la même histoire.
Elle a composé beaucoup de chansons, Billie Holiday ?
Non, pas tant que ça, parce qu'encore une fois, elle n'avait pas la formation pour le faire. Cela dit, lui arrivait en tournée avec certains musiciens, mais ça partait sur n'importe quoi, sur une idée, sur une phrase, comme ça, et si elle avait un musicien qui avait de l'inspiration ce jour-là à côté d'elle, il se mettait à faire quelque chose.
Et son histoire personnelle, Philippe Broussard, vous nous avez dit qu'elle a connu, rencontré beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a eu une histoire qui a plus compté ? Des enfants ? Est-ce qu'elle a eu des enfants ?
Non, elle n'a jamais eu d'enfants. En revanche, elle a eu beaucoup de filleuls. J'ai eu la chance d'en rencontrer deux, qui sont des personnages assez extraordinaires. Mala Waldron, qui est la fille du dernier pianiste de Billie, Mala Waldron. Adam Powell, qui était le fils de Hazel Scott. Hazel Scott, qui était un personnage extraordinaire, une chanteuse de jazz et actrice, que l'on voit notamment dans un film extraordinaire, Le désordre et la nuit, avec Gabin, en 58, justement. Et Hazel Scott était à Paris quand Billie est venue. Et grâce à Adam Powell, que j'ai pu rencontrer, il m'a raconté notamment la soirée de Thanksgiving, donc novembre 58, chez lui, chez Hazel Scott, rue de Méroménil à Paris. Et là, Billie Holiday est présente. Là, il y avait le plat avec la dinde.
La tradition américaine.
La tradition américaine. Et Billie était là en vison noir. Elle avait gardé son vison à table parce qu'elle avait froid. C'était sans doute les tremblements et les frissons du manque de dope. En sortant de ce dîner, il y avait une dizaine de convives. Ils sont tous partis à pied pour rejoindre le Mars Club de l'autre côté des Champs-Élysées. Et là, ça a été une des dernières soirées et des plus émouvantes. Et Billie a continué à chanter.
Est-ce qu'elle a continué à chanter après cet intermède européen, milanais, parisien ?
Relativement peu, parce que quand elle est rentrée aux États-Unis, il y avait une ou deux dates qui étaient prévues. Elle a fait un bref aller-retour à Londres pour un enregistrement pour la BBC quelques mois plus tard, mais elle était sur la fin. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, je trouve, avec cette séquence parisienne, c'est qu'en fait, elle arrive à Paris en 1950. Et l'époque elle-même est en train de changer. C'est le début de la 5e République. La nouvelle vague est annoncée au cinéma. Des dizaines de musiciens noirs américains vivent dans les hôtels, jouent dans les clubs. Et la grande Lady Day, comme on l'a surnommée, arrive à Paris. Et elle est un peu un personnage d'une autre époque et elle transmet en quelque sorte le témoin pour l'avenir.
Et puis sa mort 2 mois après va finir un cycle, justement, une époque. Elle meurt hospitalisée, entourée de 2 policiers. Elle meurt de quoi, Billie Holiday ?
Elle meurt de ses problèmes de santé, notamment au foie, mais de tous ses excès. Elle est surveillée par la police parce qu'en fait, on l'accuse d'avoir détenu de la drogue dans sa chambre d'hôpital, de la drogue cachée dans une boîte de Kleenex.
C'est ce qu'elle avait prédit à Françoise Sagan quelques
mois
auparavant.
C'est exactement ce qu'elle a dit à Françoise Sagan au Mars Club un soir, au moment de finir. Elle lui a dit « je finirai entre 2 flics dans un hôpital ». C'est exactement comme cela que ça s'est passé.
Parce qu'elle avait vécu 100 jours en un, c'est le nom de votre livre aux éditions Stock. Merci beaucoup Philippe Broussard, c'était un vrai plaisir de partager Billie Holiday avec vous. Un autre grand moment de la curiosité, l'histoire des sauveteurs en mer et de leur association. Un petit air d'alerte à Malibu.
Oui, enfin, il n'y a pas que des Pamela Anderson non plus.
Non, et heureusement.
Il y a des grands gars musclés, hein. Préparez-vous.
À suivre sur RTL.